heavy chance, but she was not able to prevail.
Poésie, musique, chemin contradictoire par Christian Rosset, avec aujourd'hui Pierre Luçon, mathématicien, musicien, et Claudie Malherbe, compositeur. Réalisation Jean Priseau, Elmander Babaye. À demain, 14h30, en compagnie d'Yves Dimano, Michel Grangot et Marie-Étienne, écrivain, poète.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 octobre 1996. À suivre.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Il est plus facile d'écrire un roman policier qu'un roman non policier, confiait Georges Simenon à Robert Sadoul. Dans un roman policier, on bénéficie d'un meneur de jeu. Et des romans vraiment policiers, Georges Simenon prétendait en avoir stricto sensu peu écrit. Jamais de roman policier d'action, en tout cas. Le roman policier, c'était au début pour faire ses gammes. Quant à savoir où il allait lorsqu'il commençait l'écriture d'un roman, quel qu'il soit, impossible à savoir. « Si je connaissais la fin d'un roman, disait-il, je ne l'écrirais pas. » Confidence de Georges Simenon, une émission de Robert Sadoul, diffusée pour la première fois sur Nice Côte d'Azur, le 19 juin 1955.
Et voici Confidence de Georges Simenon, recueilli par Robert Sadoul.
C'est à Mougins que j'ai eu le plaisir de rencontrer le grand romancier qu'est Georges Simenon. Mais Georges Simenon, je crois que vous n'êtes pas venu sur la Côte d'Azur depuis un certain temps. Depuis combien de temps exactement ?
Sur la Côte d'Azur, ça fait 2 ans et demi. Deux ans et demi. La dernière fois, je suis venu passer 4 jours chez mon ami Marcel Pagnol. Et nous sommes allés un petit peu dans les environs. Mais enfin, nous ne sommes pas venus vraiment sur la Côte d'Azur. C'est-à-dire que nous n'avons pas eu le temps de revisiter tous les coins que je connaissais et que j'aime ici.
Mais la première fois que vous êtes venu sur cette côte, c'est en quelle année?
Si je me souviens bien, c'est en 30 ou 31. J'avais loué une villa au Cap d'Antibes, les Roches Grises. Et j'y avais passé une année à peu près entière.
Et vous y aviez travaillé déjà à cette époque?
Oh oui, c'était le temps des premiers Maigret d'ailleurs, je me souviens. Et j'achetais à ce moment-là mon papier pour écrire mes romans dans une papeterie Place d'Antibes, à Antibes. Je crois que ça s'appelle Place d'Antibes, enfin sur la Grand Place. Et j'ai eu le plaisir avant-hier d'aller racheter un paquet de papier, une grosse provision de papier à la même librairie où j'ai retrouvé les mêmes personnes, les mêmes propriétaires qui m'ont d'ailleurs reconnu tout de suite et qui se sont souvenus de quel papier je me sers d'habitude.
Et est-ce que vous avez déjà situé la Côte d'Azur dans certains de vos romans?
Oh oui, certainement. Entre autres, dans un des premiers aussi, c'est-à-dire dans Liberty Bar.
C'est un roman qui date de quelle époque, à peu près?
J'ai dû l'écrire sur la Côte d'Azur en 31 ou 32.
Oui, et depuis, est-ce que vous êtes servi encore de la Côte d'Azur?
Probablement, mais je vous avoue que je suis incapable de vous dire dans quel roman. Je sais qu'il y en a un qui se passe en partie sur la Côte d'Azur, mais je ne me souviens plus du titre du tout. C'est un qui se passe à bord d'un yacht, avec, je sais, 2 matelots russes, mais je ne me souviens pas du titre.
Et cette fois-ci, pour le roman que vous êtes en train de préparer, à Mougins, est-ce que le cadre est situé sur la Côte d'Azur?
Non, c'est un roman qui se passe dans le Massachusetts. C'est extraordinaire, mais il se fait que j'ai celui-là en tête pour l'instant. Alors, je commence par un roman qui se passe dans le Massachusetts, mais le prochain sera probablement un roman sur la Côte d'Azur. Comme j'en écrirai, je compte en écrire 4 ou 5 pendant mon séjour ici. J'ai tout le temps.
Oui, alors, Georges Simenon, maintenant, si vous le voulez bien, nous allons parler un peu de vos romans au point de vue psychologique. Lorsque vous écrivez un roman, lorsque vous allez préparer un roman, est-ce que vous avez tout le thème, tout le canevas de près, ou est-ce que vous le faites au jour le jour?
Ça dépend ce que vous appelez le thème. J'ai en tête ce que j'appellerais le thème musical, si vous voulez, ou poétique, c'est-à-dire une sorte de ligne mélodique. Je sais si ce sera un roman qui sera avec une progression dramatique très rapide ou au contraire un roman plus lent, plus nuancé. Ensuite, ce que je dois connaître avant de commencer, ce sont mes personnages, les 2-3 personnages principaux, et enfin l'ambiance. Je dois savoir si ça se passe l'été ou l'hiver, dans telle ville ou dans telle ville ou dans tel village, connaître la maison où ça se passe, connaître les rues où mes personnages vont évoluer, etc. Maintenant, de là, le point de départ du roman est une question en réalité, étant donné tel endroit, tel personnage, tel climat, que peut-il arriver qui oblige les personnages à aller au bout d'eux-mêmes. J'ai une théorie qui n'est pas d'ailleurs, je crois, très originale, je crois que d'autres écrivains l'ont eue, c'est que nous sommes tous des personnages de romans, nous pourrions tous aller au bout de nous-mêmes, nous pourrions tous être des héros ou des misérables, nous avons toutes les potentialités en nous, seulement pour des raisons d'éducation, de bonnes mœurs, de police, de crainte, de tout ce que l'on peut imaginer. Et nous menons une vie relativement sage et nous allons rarement au bout de nous-mêmes. Eh bien, dans un roman, je prends des hommes de tous les jours, mais qui, à cause des circonstances, vont au bout d'eux-mêmes. Par conséquent, la question qui se pose lorsque j'ai mes personnages, que va-t-il leur arriver qui les oblige à aller jusqu'au bout? Et ça, c'est le premier chapitre. Il arrive quelque chose qui change tout à coup la vie de ces gens-là.
Oui, il y a les impondérables.
C'est cela, c'est le grain de sable qui vient changer exactement leur existence. Ça, c'est le premier chapitre.
Mais c'est vous qui l'ajoutez, le grain de sable.
C'est moi qui l'ajoute, le grain de sable.
Mais quelquefois, ce grain de sable peut venir tout seul, malgré vous.
Bien entendu, parce qu'il y en aura dans la suite, d'ailleurs. Ça me donne mon premier chapitre. Et étant donné ce premier chapitre, je le commence, je l'écris. Et dès lors, je vis en quelque sorte la vie de mes personnages au jour le jour. Et chaque jour, j'écris un chapitre nouveau, sans jamais savoir quel sera le chapitre du lendemain.
Vous ne connaissez donc pas la fin du roman?
Ah, jamais, pas du tout, du tout. Si je connaissais la fin du roman, je n'écrirais pas.
Oui, mais justement, les personnages, comment les trouvez-vous? Est-ce que ce sont des personnages qui vivent la plupart du temps réellement? Oui, c'est une synthèse de personnages.
C'est une synthèse de personnages, c'est-à-dire qu'il y a toujours à la base deux ou trois personnages vrais que je connais, sur lesquels je pourrais mettre un nom, une adresse, mais ils sont amalgamés à d'autres et transformés tellement qu'il n'y a jamais en réalité de roman à clé, il n'y a jamais de roman où un personnage est réellement un personnage vivant.
Oui, par exemple, si nous prenons un de vos personnages célèbres, peut-être le plus célèbre, Maigret.
Oui.
Comment était Maigret ?
Eh bien, Maigret...
Comment l'avez-vous découvert, ce Maigret ?
J'ai connu à peu près tous les commissaires de la PJ à cette époque-là, c'était vers 1928, et on pourrait dire que Maigret est une sorte d'amalgame, de synthèse de tout ce que j'ai connu, et la preuve, d'ailleurs, c'est qu'au moins 5 commissaires, maintenant encore, disent qu'ils ont été le modèle de Maigret, et en effet, on peut les y reconnaître, mais aucun ne l'est réellement. Il faut mettre les 5 ou 6 ensemble avant d'avoir le personnage total.
Oui, et alors pour d'autres personnages, mais non pas cette fois-ci des policiers, mais des gangsters, par exemple, dans les frères Rico, par exemple.
Eh bien, les frères Rico, c'est toute une combinaison également de beaucoup de personnages, y compris de personnages qui ne sont pas des gangsters du tout. Parce que l'histoire des frères Rico aurait aussi bien pu se passer avec un petit employé de banque ou avec un caissier qu'avec des gangsters. En réalité, ce que je voulais exprimer, c'était jusqu'où un homme peut aller pour garder une situation qu'il a acquise, pour garder une situation honorable, calme, une vie élégante. Enfin, vous voyez à peu près ce que je veux dire.
Oui, mais Georges Simenon, il y a une chose que j'aimerais éclaircir.
Oui?
Lorsque vous étiez en Europe, vous avez écrit une certaine forme de roman.
Oui.
Lorsque vous êtes arrivé aux États-Unis, est-ce que la psychologie américaine ne vous a pas obligé à changer justement la psychologie de vos personnages ?
Pas du tout. Pas du tout, du tout. Et justement, je lisais encore hier des critiques qui viennent d'arriver de mon dernier livre en Amérique, et ce qui les frappe, c'est que mes romans, qu'ils soient mes romans français ou mes romans américains, pourraient, les Américains pourraient se passer en Europe et les Européens pourraient se passer en Amérique. Il n'y a aucune différence. Je crois que les hommes sont les mêmes partout. Il n'y a quelques circonstances qui changent. Il y a quelques détails de vie pittoresques qui sont différents d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Mais l'homme est exactement le même partout.
Oui, l'Amérique ne vous a-t-elle pas donné le goût de venir à ce roman policier d'action au lieu de continuer dans le style de roman policier psychologique ?
Pas du tout, du tout. Aussi, je n'ai pas du tout écrit de roman policier d'action, d'ailleurs. Aucunement.
Oui, c'est ce qui est étonnant, à la période de la série noire, de vous voir continuer ce roman policier purement psychologique.
En réalité, j'écris très très peu de romans policiers, si l'on peut dire des romans policiers. Je continue à écrire 1 ou 2 Maigret par an, par fidélité pour mon personnage, pour mes lecteurs, même par une sorte de superstition, mais et en même temps pour faire des gammes. Vous imaginez un peintre qui, en 2 grands tableaux, s'amuse à faire des croquis, à faire d'une nature morte, etc. C'est un petit peu pour moi la même chose. Mais ce qui m'intéresse surtout sont mes autres romans qui ne sont pas policiers du tout et qui n'ont rien à voir ni avec le roman américain ni avec le roman français, je crois. C'est ce que j'appelle des romans tout court.
Mais Georges Simenon, est-ce qu'aux États-Unis le roman policier connaît la même vogue qu'en Europe ?
Non, elle est terminée depuis un certain temps déjà. Et je crois que ce qui la remplace maintenant, c'est ce qu'on appelle les science fiction, vous savez, les romans pseudo-scientifiques qui se passent dans Mars, dans Neptune, etc.
Et justement, est-ce que cette nouvelle mode de roman vous attire ?
Pas du tout. Pas du tout, pas plus que le roman policier proprement dit m'a jamais attiré. Si j'ai écrit des romans policiers, en réalité, c'est à une époque où j'étais incapable d'écrire un roman tout court, c'est-à-dire où j'étais incapable de me passer d'un meneur de jeu. Si étrange que ça puisse paraître, il est beaucoup plus facile d'écrire un roman policier qu'un roman non policier. Parce que vous avez le personnage central qui peut présenter tous les autres personnages, qui peut les questionner, qui peut entrer partout. Par conséquent, la construction du roman est extrêmement facile. Alors, à une époque où je ne me sentais pas capable de faire un roman sans cœur antique, sans meneur de jeu, j'ai écrit Les Maigret. Et ensuite, je vous dis, j'ai d'ailleurs abandonné pour 5 ou 6 ans à la suite de cela. Et puis, j'ai eu des remords et je me suis mis à en réécrire de temps en temps et maintenant un par an.
Oui, est-ce que vous suiviez pour cela les faits divers ? Est-ce que vous avez assisté à des procès, par exemple ?
Ah oui, ça me passionne. Ça m'a toujours passionné, mais pas du tout pour les romans policiers, même pour les autres. Je lis les faits divers tous les jours dans les journaux, ça me passionne énormément, et dès que j'ai la possibilité d'assister à un procès intéressant, j'y assiste.
D'ailleurs, on avait, je crois, annoncé votre venue pour le procès d'Omicinici.
Oui, j'étais en réalité à Paris à ce moment-là, plus exactement à Londres, quand il a commencé, et puis à Paris quelques jours plus tard. Mais malheureusement, j'y étais pour à peu près une semaine, il m'était incapable de venir à Digne, sinon ça m'aurait passionné.
Oui, alors, quel est le côté qui vous passionne dans le procès ?
Eh bien, c'est le côté humain, bien entendu. C'est, dans un procès, il est certain que l'âme humaine est disséquée en plein public comme elle ne l'est jamais autrement. Et d'autre part, il y a également la lutte d'un homme contre toute la société. Il y a un être qui est là et qui lutte contre la société entière. C'est un petit peu comme une corrida, n'est-ce pas, où le taureau a lutté contre toute l'organisation, si je puis dire, de la corrida, depuis le matador jusqu'au picador, etc. C'est à peu près la même chose. C'est assez cruel, en même temps que très révélateur de l'âme humaine.
Oui, est-ce que vous aimez le jeu?
Pas du tout.
Pas du tout.
Je ne suis pas joueur.
Vous n'êtes pas joueur.
Pas du tout.
Quelles sont vos principales distractions en dehors du métier littéraire?
La première, c'est ma famille. Je consacre énormément de temps à ma famille. Ma femme et mes trois enfants, je suis avec eux presque toute la journée. Et mon Dieu, ce qui me passionne, ce sont certains sports, comme par exemple, j'aime beaucoup l'équitation. En Arizona spécialement, j'en faisais énormément. En réalité, nous vivions à cheval, pour ainsi dire, du matin au soir. J'aime beaucoup le golf. Je suis un très mauvais joueur de golf, mais enfin, je me passionne quand même. J'aime la pêche en mer. Et je crois que c'est tout.
Et parmi les spectacles, le théâtre, le cinéma?
Je ne vais pas au théâtre, presque jamais. Très, très rarement, je ne vais pas plus de deux fois par an au théâtre. Le cinéma, j'y vais de temps à autre, mais pas énormément.
Est-ce que vous allez voir les films qui sont tirés de vos romans?
Jamais. Jamais. J'en ai vu un ou deux et ça m'a découragé.
Et pourriez-vous nous dire à l'heure actuelle combien il y a eu justement de transpositions de vos romans au cinéma?
45 à ce jour.
C'est un beau chiffre.
Oui,
c'est assez. Est-ce qu'il y en a en cours en ce moment?
Oui, il y en a à Hollywood. On est en train de réaliser Les Frères Rico. Et je viens de vendre ici en France les droits de Trois Chambres à Manhattan, qui va être tourné à New York prochainement.
Vous ne vous occupez pas du tout du dialogue ou du découpage?
Rien. Je ne veux absolument pas m'occuper de cinéma, si ce n'est pour mettre ma signature sur un contrat. Pour la bonne raison que je n'ai pas envie d'attraper d'ulcère. Quand j'écris un roman, je suis tout seul dans mon bureau. Il n'y a personne pour me dire, il faut changer ceci, il faut changer cela, ça doit avoir telle longueur, telle réplique devrait être dite de telle façon. Tandis que le cinéma étant une affaire qui met en jeu d'énormes capitaux et un grand nombre de gens, vous avez au moins 20 personnes derrière vous pour vous faire changer tout ce que vous avez envie de faire. Et après 6 mois, vous en avez un ulcère fatalement ou à peu près.
Oui, mais est-ce que le cinéma est un moyen d'expression qui vous plaît quand même?
Beaucoup. Si je n'avais pas été romancier, j'aurais probablement été metteur en scène. Mais alors j'aurais voulu faire la mise en scène entière, c'est-à-dire écrire mon histoire pour le cinéma directement, la réaliser, enfin, faire tout mon film depuis A jusqu'à Z.
Oui. Georges Simenon, maintenant une question qui va peut-être vous paraître indiscrète. Est-ce que beaucoup de vos livres vous contiennent? Est-ce que vous vous mettez vous-même dans vos livres?
Non, j'ai l'impression de ne pas m'y mettre du tout. Maintenant, je crois que je m'illusionne, il est impossible à un écrivain, même essayant de rester tout à fait objectif, de ne pas se trahir dans son œuvre. Il est évident que celui qui lit la plupart de mes livres doit avoir une connaissance assez exacte de ce que je suis réellement, mais aucun personnage n'est jamais mon porte-parole, n'est jamais la description ni de moi, ni d'un événement qui m'est arrivé. Jamais.
Encore une autre question, un peu plus cruelle cette fois-ci.
Oui.
Si vous aviez à choisir un personnage, vous,
oui,
est-ce que vous choisiriez le personnage du policier ou au contraire celui qui est poursuivi?
Oh, je choisirais certainement le personnage de Maigret, par exemple. Si j'avais un personnage à jouer moi-même, à être moi-même, je crois que j'aurais une certaine tendance à prendre plutôt le personnage de Maigret.
Et pour quelle raison?
Là, alors, vous me posez une question embarrassante, est-ce qu'ils appellent une colle? Peut-être parce que j'ai instinctivement un certain goût de l'ordre. Enfin, pour vous en donner un exemple, il y a 35 ans maintenant que je conduis une voiture, dans tous les pays du monde, il y en a où c'est très sévère, les règlements sur la circulation, etc. Or, je n'ai jamais à la fois à la personne théoriquement la plus qualifiée et pratiquement la moins qualifiée. Je dirais la plus qualifiée, parce que si étrange que ça paraisse, je suis président des Mystery Writers of America, c'est-à-dire président de l'association des écrivains de romans policiers américains. C'est assez étonnant pour un étranger. Par cela donc, je devrais être qualifié pour vous répondre, mais en même temps, je ne lis jamais de romans policiers. Par conséquent, je suis incapable de vous répondre. J'ai eu un procès verbal. Jamais. Je suis probablement en Amérique un des seuls ayant roulé pendant 10 ans sans avoir un seul procès-verbal.
Est-ce que la mentalité américaine vous convient?
C'est à voir ce que vous appelez me convenir. Je suis capable de vivre n'importe où. J'ai vécu un petit peu dans tous les pays, sous tous les climats, et je me suis senti bien partout. Peut-être parce que je ne vois pas les différences entre les gens, mais les ressemblances. Le journaliste qui débarque aux États-Unis ou le touriste qui débarque aux États-Unis ou n'importe où voit d'abord ce qui diffère d'ailleurs. Et c'est en effet son rôle, sinon il n'y aurait pas d'article, ce ne serait pas intéressant. Je crois que le romancier, au contraire, ce qu'il doit voir, c'est ce qui est partout de même, c'est-à-dire voir l'homme éternel. Or, j'ai vécu dans 5 parties différentes des États-Unis, dans des petites villes et dans des villages comme Mougins ici. Par exemple, j'ai vécu à Sarasota, qui ressemble tout à fait à Mougins, exactement, comme nous sommes ici, au bord, c'est en Floride. Je ne vois guère de différence entre la mentalité des uns et des autres. Les différences sont de surface, vous comprenez, mais dès que vous grattez un petit peu la surface, vous trouvez l'homme exactement le même.
Oui, et maintenant, j'aimerais que vous me disiez ce que vous préparez exactement à Mougins, car vous avez certainement plusieurs romans en préparation. Vous en avez un, en ce moment, qui est sur la machine.
Oui, mais je ne prépare jamais plusieurs romans d'avance. Je ne commence à préparer un roman que 2 jours avant de l'écrire. Jamais, jamais, je ne prépare un roman plus longtemps d'avance.
Et le thème arrive aussi rapidement?
Oui.
Est-ce que vous choisissez le titre d'abord?
Oui, mais par exemple, ce qui m'arrive le plus souvent, c'est d'en changer 2 ou 3 fois en cours de roman et d'en changer encore une dernière fois au moment de l'édition.
Alors, quel est le titre du prochain, s'il vous
plaît? La boule noire.
Et quel en est le thème? Le début du thème.
Le début du thème, c'est un type qui a travaillé toute sa vie avec l'idée de devenir membre d'un certain club de sa région, qui pour lui est l'idéal complet, parce que c'est l'admission dans la société, etc., et qui trouve une boule noire le jour de l'élection. Il y a une boule noire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être nommé, n'est-ce pas? Et de là part le roman, je ne sais pas ce qui se passera.
Alors, purement psychologique.
Purement psychologique, oui.
Absolument pas policier, celui-là.
Pas du tout, du tout, du tout. Je ne crois même pas qu'il y aura ni mort, ni même d'accident.
Et où se passe-t-il?
Dans le Massachusetts, dans un petit village, une petite ville plus exactement du Massachusetts.
Mais alors, à Mougins, vous pouvez faire un roman ayant pour cadre le Massachusetts?
De même qu'en Connecticut, j'écris beaucoup plus facilement un roman sur la France. C'est une chose que j'ai déjà expliquée, en particulier aux Américains qui ne comprenaient pas pourquoi j'écrivais tant de romans français en Amérique. Je leur disais que l'éloignement me donne une vue plus synthétique d'une région et des gens qui y habitent. Lorsque vous êtes trop près d'un modèle, vous voyez trop de détails et vous voulez les mettre tous. Enfin, supposez que je veuille décrire Cannes en y étant. Je vais vouloir tout mettre, y compris toutes les sortes d'arbres, de fleurs, enfin, tout mettre à la fois. Et alors j'aurai quelque chose de touffu qui ne donnera pas du tout l'impression de Cannes. Tandis qu'au contraire, si l'hiver, plein hiver, quand j'ai de la neige là-bas à Lakeville, je repense à Cannes ensoleillée, je vais avoir un dessin presque linéaire de Cannes, et en quelques mots, je serai capable de le décrire.
Oui, évidemment, mais si vous avez besoin, par exemple, pour cadrer votre roman, d'une rue ou d'une maison plus particulièrement, ou d'un certain personnage, est-ce que vous êtes obligé de le reconstruire complètement?
Non.
La mémoire suffit.
Ah oui, j'ai tout ça dans la mémoire. Il n'y a qu'une chose que j'emporte toujours avec moi en voyage, ce sont des plans des villes, parce que comme j'ai une très mauvaise mémoire, je ne me souviens jamais des noms de rues, des noms de places publiques, etc. Alors je me sers des plans de ville pour me souvenir, me dire, tiens, telle rue, comment s'appelait telle rue, qui allait de tel endroit à tel endroit, alors je regarde mon plan de ville et je retrouve. C'est comme pour les noms, je me sers toujours des annuaires du téléphone. À la maison, j'ai au moins 100 ou 150 annuaires du téléphone du monde entier, où je puise pour les noms dont j'ai besoin.
Oui, pour le bien et pour le mal, est-ce que cela ne vous a pas créé quelques ennuis déjà?
Si, mais pourtant je suis très prudent, parce que si j'ai besoin, par exemple, de noms, mettons, j'ai besoin de noms de gens de Nice, je vais prendre l'annuaire de Cannes, alors, ou de Toulon. Vous comprenez, c'est tout le même, à peu près la même région, les mêmes consonances, mais je m'arrange à éviter autant que possible de ne pas prendre de noms correspondant à ceux de mes personnages.
Est-ce que quelquefois des gens vous écrivent, des lecteurs vous écrivent pour dire, mais nous sommes reconnus?
Oui, malheureusement, et alors les gens, généralement, ont une tendance à vous faire un procès. Ils se disent que c'est un bon moyen de gagner de l'argent sans rien faire, ils vous font un procès, heureusement, ils les perdent presque toujours.
Oui, parce qu'en général, d'ailleurs, les personnes qui se reconnaissent sont les personnes qui sont les plus massacrées dans un roman.
Oui.
L'imbécile du coin, l'idiot du village, n'est-ce pas?
Oui, Et puis, il y a une certaine sorte de gens, c'est très curieux, mais dans le monde entier, il y a des gens qui aiment faire des procès de cette sorte-là. Ce sont les mêmes, d'ailleurs, qui viennent vous proposer toujours des affaires mirifiques, n'est-ce pas? Ils viennent vous dire, si vous mettez moitié-moitié avec moi, j'ai un moyen infaillible de faire sauter la banque, ou j'ai un moyen infaillible de gagner 10 millions à la bourse, etc. Ce sont les mêmes qui font des procès, je ne dirais pas que ce sont des fous, mais enfin, c'est une catégorie assez spéciale d'individus.
Mais après avoir écrit un roman policier, par exemple, sur l'Amérique, oui. Est-ce qu'il vous est arrivé de recevoir des lettres ou des coups de téléphone de véritables gangsters ou de véritables policiers pour vous donner des tuyaux?
Des policiers, j'en rencontre souvent, mais alors ce n'est pas après un roman. J'ai souvent des policiers qui viennent me voir et avec qui on bavarde. Mais les gangsters sont des gens, que ce soit des gangsters français ou des gangsters américains, qui jamais ne s'occupent des auteurs. Même s'ils se reconnaissent, ils préfèrent se taire.
Ils dédaignent le roman policier.
Non, mais ils sont très prudents. Ce sont des gens sérieux. Ce sont des hommes d'affaires, en réalité.
Oui, est-ce qu'il y a une différence entre la mentalité du gangster américain et du gangster français?
Je crois que la seule différence, c'est que là-bas, ils sont beaucoup plus organisés. Ce sont de très, très grosses organisations.
Ce sont de grosses affaires.
Ce sont très grosses affaires, et ceux qui sont à la tête sont en réalité de grands businessmen. Que vous rencontrez
ayant pignon sur rue.
Ayant pignon sur rue, possédant enfin un des plus grands gangsters américains, possède au moins 4 ou 5 grands hôtels, dont 2 à New York, n'est-ce pas? Et tout le monde le sait, seulement il est imprenable.
Oui, et si nous parlions un peu de notre région, puisque nous y sommes, vous pensez que cela n'existe pas
Pas à cette échelle-là.
À cette échelle.
Non. C'est-à-dire qu'ici, vous avez d'un côté, je crois, certains hommes d'affaires relativement véreux qui manient de l'argent à l'appel, évidemment, en étant toujours à la limite de la loi, plus ou moins. Et d'un autre côté, vous avez ce qu'on appelle le milieu, la bande des Corses et la bande des Marseillais qui, de temps en temps, s'envoient quelques pruneaux, qui font quelques petites choses. Mais enfin, ce n'est pas bien méchant. Quand ils se descendent, c'est entre eux la plupart du temps. C'est ce qui correspondrait aux gangsters de Chicago, ça alors, plus ou moins. Ils font beaucoup de bruit, mais en réalité, je crois qu'ils font moins de mal qu'on ne le pense.
Mais justement, est-ce que, selon vous, le roman policier n'a quand même pas eu une certaine influence sur les jeunes, par exemple, et ne les a pas aidés à devenir de ces sortes de héros?
Ça, je n'en sais rien. C'est une question que je ne me suis jamais posée.
Parce qu'on le dit pour le cinéma, n'est-ce pas?
Oui, mais seulement on a toujours dit ça. Rendez-vous compte qu'avant le cinéma, je me souviens dans mon enfance, le cinéma existait relativement peu, on y allait très peu, mais on vendait toutes les semaines des petits fascicules qui s'appelaient Nick Carter. Et bien, c'était exactement l'équivalent et des films de gangsters de maintenant et l'équivalent de ce qu'on appelle les comic books américains, vous savez. Bon, il n'y avait pas plus. D'ailleurs, dites-vous que la criminalité des jeunes était aussi forte, mettons en 1900 par exemple, que maintenant, au lieu de dire gangster, on disait des apaches. Mais je me souviens que j'ai eu un petit ami qui lui alors était anarchiste, il a mis une bombe sous le lit de ses parents à l'âge de 16 ans, dans ma ville, à Liège. Alors maintenant, on dirait, mon Dieu, c'est l'influence du cinéma, il n'était jamais allé au cinéma, il n'avait jamais lu de roman policier.
Mais Georges Simenon, la dernière question,
oui.
Vous retournez de temps en temps en Belgique?
Oui, et je compte y retourner cet été pour aller voir ma mère et tous mes amis là-bas. J'ai encore beaucoup de bons amis là-bas, entre autres dans la presse belge, parce que comme j'ai débuté dans le journalisme à Liège, je suis toujours heureux de retrouver mes amis de la presse belge.
Oui, et est-ce qu'en Belgique, on vous lit plus qu'en France?
Ça, c'est une question que je serais incapable... Je serais incapable de vous répondre à cela pour la bonne raison que... Comme ce sont les livres, les éditions françaises qui vont en Belgique, il faudrait que je demande à mon éditeur, je ne vais jamais poser la question.
Bon, maintenant, pourriez-vous nous dire à peu près combien, si votre mémoire est fidèle, à peu près combien de romans vous avez publiés?
Oui, ça je peux vous répondre exactement, parce qu'avant de quitter les États-Unis, ma femme a fait le compte, justement pour répondre aux journalistes, 154.
154 en combien d'années de travail?
J'ai commencé, je parle sous ma signature, j'ai commencé à écrire sous ma signature en 1929.
Oui.
Alors calculez combien d'années ça fait. 25 ans, je crois.
25 ans.
En réalité, Maigret a 25 ans cette année. En 1929, j'ai écrit les premiers Maigret, donc il a 25 ans cette année.
Et vous avez utilisé combien de pseudonymes à peu près?
Avant cela, j'ai utilisé à peu près 16 pseudonymes.
Eh bien, je crois
Mais
que...
Mais les 154 romans, ce sont ceux qui ont été écrits sous mon nom. Les autres ont été écrits avant, ça ne compte pas.
Merci Georges Simenon.
C'était Confidence de Georges Simenon, recueilli par Robert Sadoul.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur Nice Côte d'Azur le 19 juin 1955.
Vous écoutez France Culture.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Les nuits de France Culture.
Le déclenchement de la guerre d'Indochine, de la décolonisation de l'Indochine française, ne peut pas se comprendre sans revenir sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est le coup de force du Japon contre l'armée et l'administration coloniale française en mars 1945 qui déclenche véritablement le cycle d'événements menant à la proclamation d'indépendance du Vietnam en septembre de cette même année. Au-delà de son extrême violence, cet épisode marque un tournant dans les mentalités en faisant apparaître pour la première fois la faiblesse et la vulnérabilité des colonisateurs français. Cet épisode est la suite d'événements qu'il déclencha jusqu'au début de la guerre d'Indochine proprement dit en décembre 1946, nous sont comptés dans l'émission que voici par plusieurs de leurs acteurs et témoins. Voici l'histoire en direct, décembre 1946, le début de la guerre d'Indochine, une émission de Patrice Gélinet et Christine Bernard-Sugy, diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 juin 1993.
L'histoire en direct. Décembre 1946, le début de la guerre d'Indochine.
À l'heure où certaines revendications coloniales semblent vouloir s'affirmer, Pathé Journal croit nécessaire de présenter ce rapide inventaire de l'œuvre accomplie jusqu'à ce jour à l'abri de nos couleurs. Dans de nombreuses régions, autrefois désertiques, où des tribus hostiles les unes aux autres traînaient une existence misérable, les civilisateurs français ont apporté la paix, le travail, la prospérité, la joie. La France admet comme légitime et heureuse la diversité des civilisations qu'elle respecte. Tout Français est citoyen d'une France mondiale de 100 millions d'habitants. Par son importance et sa fécondité, le domaine français d'outre-mer est devenu un élément essentiel de la vie économique mondiale, une force active de la civilisation, un glorieux témoignage de la grandeur de la France.
Au début des années 30, à l'apogée de l'expansion coloniale de la France, le président de la République, Gaston Doumergue, inaugure au bois de Vincennes l'exposition coloniale. Tous les territoires de l'immense empire français y sont représentés par des pavillons, dont le plus impressionnant, le plus visité aussi, est la reconstitution fidèle du temple d'Angkor. Ancienne capitale d'un empire devenu un protectorat français au XIXe siècle, le Cambodge fait partie de la plus fascinante, de la plus riche et de la plus peuplée des colonies françaises, l'Indochine. 23 millions de Vietnamiens, de Cambodgiens, de Laotiens, qui supportent tant bien que mal la souveraineté française. En ce début des années 30, elle paraît inébranlable. En Asie, le prestige de l'homme blanc est encore considérable. Celui des Anglais en Inde, en Birmanie, en Malaisie, celui des Hollandais en Indonésie, des Américains aux Philippines et celui de la France en Indochine. Personne n'imagine alors l'énorme choc que provoquera 10 ans plus tard l'occupation par le Japon des colonies européennes d'Extrême-Orient. Au début des années 40, lorsque commence la guerre du Pacifique, tous les peuples colonisés d'Asie voient en effet leurs colonisateurs blancs humiliés et battus par des Asiatiques, par cette armée japonaise qui profite de la défaite française en Europe pour occuper l'Indochine dès 1940. Philippe Franchini.
Les Japonais donnaient quand même une impression de très grande force. C'était des petits martiens, les Japonais, quand on les voyait à Saigon. Ils étaient vraiment effarants parce qu'avec cette chaleur-là, ils ne marchaient jamais normalement, ils n'avaient toujours pas de course. Ils traversaient Saigon, ils allaient tant de minutes au port, ça fait plusieurs kilomètres, toujours au pas de course. Toujours au pas de course, et puis avec leurs sons gutturaux, sortaient, enfin, et puis c'était des gens étranges, on les voyait sur les plages, avec, ils étaient à moitié nus, vous savez, avec l'espèce de tissu qui leur cachait le sexe, mais ils avaient le derrière l'air, vous savez, comme les lutteurs de sumo, quoi. C'était vraiment des gens étranges, même les Vietnamiens les regardaient comme ça, et ils faisaient vraiment peur. Et puis, ils ne supportaient pas beaucoup l'alcool. Et il y avait des histoires, par exemple, au Continental, je me souviens, moi, comme quoi, j'avais assisté à une scène terrifiante, un officier japonais qui avait sorti son sabre et... Il s'était mis à tout trancher à la réception. Il avait tranché une map monde. Bon, c'était leur colère était absolument, absolument effrayante.
Dans toutes les colonies d'Extrême-Orient qu'ils occupent au début de la guerre du Pacifique, les Japonais créent l'irréparable. Contre leurs adversaires anglais, américains et hollandais, ils encouragent l'émancipation des peuples asiatiques et éliminent l'administration coloniale. Mais en Indochine, ils maintiennent en place le colonisateur français. Le gouverneur, l'amiral Decou, est pétainiste et la France de Vichy collabore avec l'Allemagne, alliée du Japon. Mais les bons rapports entre l'administration française et les Japonais n'empêchent pas ceux-ci d'entretenir en Indochine, comme ailleurs, une propagande efficace qui sape le prestige du colonisateur blanc.
Prenez un œuf. Il est constitué de deux parties bien distinctes et non mêlées, comme le monde. Le blanc et le jaune. Le blanc semble le plus important. Mais si vous mélangez les deux parties, que reste-t-il? Du jaune, et du jaune seulement. Donc, le jaune est plus fort que le blanc.
C'était très simple, mais c'était ridicule, mais... Dans la masse de la population, vous savez que les gens croyaient facilement, mais surtout en voyant les Japonais, en voyant leur puissance, on n'était pas loin, les Vietnamiens n'étaient pas loin de le croire. Et puis alors, il ne faut pas non plus oublier que quand les Japonais ont commencé à amener des prisonniers, ça m'a frappé, ça m'a fait quelque chose. Ils ont amené des prisonniers britanniques et surtout hollandais d'Indonésie. Et ils les faisaient travailler devant tout le monde, comme ça, torse nu, en plein soleil, à faire du terrassement, vous voyez. Et alors voir les petits jaunes gardant comme ça ces grands blancs, voire traités de comme des bagnards, croyez-moi que ça faisait un effet fantastique. Le prestige du blanc, il en a pris un coup.
Après la libération de la France en 1944, les rapports franco-japonais se dégradent très vite. Le gouvernement de Vichy a disparu et Tokyo craint désormais que la France libre du général de Gaulle favorise en Indochine un débarquement anglo-américain. Les Français d'Indochine deviennent suspects. Le 9 mars 1945, au Vietnam, l'armée japonaise crée l'irréparable. En quelques heures, sous les yeux des Vietnamiens stupéfaits, toute l'administration française est éliminée. Des milliers de civils et de militaires sont exécutés ou emprisonnés par l'armée japonaise.
Et voici maintenant l'émission des provinces outre-mer, une réalisation du service des émissions coloniales. Paul Tetto vous parle.
En Indochine, comme vous le savez, le Japon a jeté le masque. Et par surprise, dans l'ombre, il a attaqué nos garnisons. Pendant quelque temps, Tokyo et Berlin se sont associés pour clamer à tous les échos ce qu'ils osaient appeler leur victoire. Mais malgré tous ces mensonges de la première heure, la France conservait toute sa confiance dans ses combattants et résistants d'Indochine, à qui elle a confié la garde de cette terre que notre sang et que notre travail ont rendue si profondément nôtre.
Philippe Franchini, est-ce que vous avez gardé un souvenir du 9 mars 45?
Ah oui, ça oui, alors. Tout d'un coup, on les a vus devenir les maîtres. Pour ma part, j'étais à Dalat. Parce que quand les Japonais ont fait le coup de Mars, ils ont rassemblé tous les Français dans des périmètres contrôlés. Ils avaient mis les militaires dans des camps, le camp de la mort, au Abin, là. Les civils dans des périmètres contrôlés. Donc on s'est replié sur Saigon et on nous a évacués de Dalat dans des fourgons à bestiaux. Sur tout le trajet, le train avançait très lentement. À chaque arrêt, il y avait des Vietnamiens pour cracher dessus. Et quand on a débarqué à la gare, on était entouré par des Japonais. Et tout le long, pour aller jusqu'au centre, jusqu'à partir de ce moment-là, chacun est rentré chez soi, il y avait des Vietnamiens qui nous envoyaient des pierres et qui nous crachaient dessus. Je vous assure que c'est assez impressionnant. Et c'est ça, ce sont des souvenirs qu'on n'oublie pas. Ça, pour moi, voilà, le 9 mars, c'est ça. Vous voyez, c'est presque moins les Japonais. C'était les Japonais qui laissaient faire. Ils nous escortaient, mais ils laissaient faire. Et les Français, là, ont été sidérés. Mais comment ils peuvent avoir cette haine contre nous? Et pour les Vietnamiens, c'était la première fois qu'ils voyaient vraiment les Français humiliés.
Il y avait autrefois, devant nous, une porte si lourde et surtout si impressionnante que personne n'osait même tenter de la pousser. Personne, ou presque personne, car les audacieux s'y étaient brûlés les doigts. Un jour, un étranger est venu et l'a brutalement ouverte. Depuis lors, personne ne craint plus de l'ouvrir ni de la franchir. Un vieux sage de Mitra.
Le 9 mars 1945, en éliminant tout ce qui représente l'autorité de la France en Indochine, les Japonais ont ouvert la voie à l'indépendance. Le rêve de plusieurs organisations nationalistes qui la réclament depuis des années. Le VNQDD, le Parti National Vietnamien, mais aussi le Parti Communiste Indochinois, dirigé par un certain Nguyen Ai Quoc. En 1941, il prend le nom de Ho Chi Minh, crée en Chine une ligue pour l'indépendance du Vietnam, le Viet Minh, et rentre dans son pays clandestinement pour y lutter contre les Japonais. Ce n'est donc pas vers lui que se tourne le gouvernement de Tokyo après le coup de force du 9 mars 1945. Pour combler le vide politique qu'ils ont provoqué en éliminant les Français, les Japonais pensent plutôt à l'empereur d'Annam, Bao Dai. Dans son palais impérial à Hue, d'où il règne sur le Vietnam sans y gouverner, Bao Dai reçoit un jour l'ambassadeur du Japon qui vient lui proposer quelque chose que la France ne pourra plus jamais retirer. Bao Dai.
L'ambassadeur, son excellence Yokohama, qui s'est présenté à moi comme ambassadeur extraordinaire est venu me voir en disant, voilà, au nom du Mikado, nous voulons octroyer l'indépendance à votre pays. Alors je demandais, c'était de l'indépendance, vous nous l'octroyez, mais qu'est-ce que vous demandez en contrepartie ? Et il m'a dit rien. Alors c'est à ce moment-là que j'ai convoqué le conseil des ministres, c'était la première fois que je présidais, puisque autrefois c'était le résident supérieur qui présidait le conseil des ministres chez moi, et j'aurais proposé, si vous voulez bien, signer avec moi cet acte d'indépendance, et que chacun me dise son opinion. Alors tous m'ont dit, on ne sait pas ce que vaut cette indépendance, mais si vous la refusez, votre peuple vous le reprochera toujours. C'est pourquoi j'ai signé l'acte d'indépendance.
On a parlé de l'indépendance de pacotille. C'était des gouvernements fantoches, que c'était japonais, évidemment, qui avaient les rênes entre les mains. D'accord. Mais c'était quand même pour moi très important. Parce que c'était vraiment une rupture avec la colonisation, avec le système colonial. La magie du mot Doklap, indépendance, est quelque chose qui a commencé vraiment là. Même s'il y avait encore les Japonais. Et c'est pourquoi je pense que c'est vraiment la première mort de la machine française.
Le 6 août 1945, les Américains lancent la première bombe atomique sur Hiroshima. 10 jours plus tard, le Mikado, l'empereur du Japon Hirohito, annonce la capitulation de son pays. La guerre est finie. Dans toute l'Asie, les troupes d'occupation japonaises cessent le combat et attendent l'arrivée des Alliés. En Indochine, une course de vitesse s'engage aussitôt entre le gouvernement français du général de Gaulle, qui cherche à envoyer des troupes au Vietnam, et le Viet Minh, qui veut profiter du vide créé par la capitulation du Japon et par l'absence des Français pour s'emparer du pouvoir. C'est ce qu'il fait le 19 août 1945. Ce jour-là, les forces Viet Minh du général Giap s'emparent de Hanoï. Von Nguyen Giap.
Le moment de l'insurrection est venu. Et alors, à Hanoï, par exemple, le 19 août, n'est-ce pas, c'était l'insurrection générale, n'est-ce pas. Ici, c'est un édifice historique. Alors, il y a eu une grande manifestation, n'est-ce pas, à la place du théâtre, et puis une très grande manifestation devant ce palais. C'était où était palais. Le vice-roi, le vice-roi de Maulai, n'est-ce pas. Et alors, la foule arborait le drapeau rouge, le sambarais, n'est-ce pas, de ce bâtiment, et puis le comité, n'est-ce pas, révolutionnaire de Hanoï était fondé. Alors à ce moment, n'est-ce pas, l'insurrection générale gagnait tout le pays.
Un énorme défilé part dans Hanoï.
Philippe Grandjean.
Et après s'être formé au théâtre, c'est-à-dire à ce qui est devenu l'Assemblée nationale, et il porte des drapeaux nationalistes, c'est-à-dire à deux bandes rouges sur fond jaune, trois bandes rouges sur fond jaune. Et avec l'accord visible de la gendarmerie japonaise, de la Kanpetai, qui entourait le défilé, qui encadrait le défilé, ces drapeaux disparaissent et leur sont substitués des drapeaux Viet Minh.
C'était une levée de tout le peuple.
Van Dong.
On ferait le drapeau à travers tout le pays. Une explosion de joie, et j'ajoute une explosion de vertu dans le peuple.
Après la défaite japonaise, j'ai reçu de la part des représentants de toute tendance politique
Baodai
un télégramme me demandant de faire un geste pour le pays. Je voyais que dans l'esprit de mes compatriotes, ils voulaient une révolution. Pour eux, s'il n'y a pas de révolution, il n'y a pas d'évolution, justement. La révolution, je ne voyais pas comment ils voulaient la faire. Alors je leur ai dit, vous voulez faire une révolution? Eh bien moi, je vais vous la faire, la révolution. C'est ainsi que je suis parti et j'ai laissé ma place. Un nouveau régime.
Au compromis avec les Japonais, Baodai, qui souhaite préserver l'indépendance de son pays, abdique le 24 août 1945. Il accepte même d'entrer comme conseiller dans le gouvernement provisoire créé 4 jours plus tard par Ho Chi Minh avec Pham Van Dong et Giap. Mais le temps presse. Les Français vont bientôt revenir. Il faut les mettre au pied du mur. Le 2 septembre 1945, place Ba Hin à Hanoï, devant des milliers de Vietnamiens, Ho Chi Minh crée l'irréversible. En proclamant à son tour l'indépendance du Vietnam, il met un terme à 80 ans de colonisation française.
Je suis l'un des rares Français à avoir assisté à la proclamation de l'indépendance. C'était le 2 septembre.
Philippe Grandjean.
Et sur la place, en face du gouvernement général, et un certain nombre de corps constitués, dont le grand séminaire de Hanoï, des bonzes, enfin, etc., était disposé en étoile autour de la place, et Ho Chi Minh et son équipe étaient au milieu, un discours enflammé, et j'ai assisté, j'étais là.
Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ.
Tous les hommes sont nés égaux. Le Créateur nous a donné des droits inviolables, le droit de vivre, le droit d'être libre et le droit de réaliser notre bonheur. Cette parole immortelle est tirée de la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique en 1776.
Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791.
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française de 1791 proclame également: les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce sont là des vérités indéniables. Et pourtant, pendant plus de 80 années, les impérialistes français, abusant de leur liberté, égalité, fraternité, ont violé la terre de nos ancêtres et ont opprimé nos compatriotes.
Monsieur Pham Van Dong, le 2 septembre 1945, c'est la proclamation de l'indépendance.
Oui, c'est la proclamation de l'indépendance.
Comment l'avez-vous vécu ce jour-là, vous-même?
Oh là là, c'est un jour historique. Historique pour tout le monde. Nous étions là, tous. C'était pour la première fois que Ho Chi Minh, que Nguyen Khoc, prenait contact avec le peuple du Vietnam. Et sa voix a été écoutée dans tout le pays. Nous étions émus jusqu'au larmes. Parce que pour la première fois, pendant des décennies, bien, on entendait la voix dans l'île de la Révolution qui lisait la proclamation de l'indépendance, disant que le Vietnam est et restera un pays indépendant.
Một dân tộc đã gan gốc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay. Một dân tộc đã gan gốc đứng
un peuple qui s'est obstinément opposé à la domination française pendant plus de 80 ans. Un peuple qui, durant ces dernières années, s'est décidément rangé du côté des Alliés pour lutter contre le fascisme, ce peuple a le droit d'être libre, ce peuple a le droit d'être indépendant. Pour ces raisons, nous, membres du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam, proclamons solennellement au monde entier, le Vietnam a le droit d'être libre et indépendant, et en fait, est devenu libre et indépendant.
La proclamation de l'indépendance du Vietnam est un véritable défi lancé à Paris au gouvernement du général de Gaulle. Deux semaines plus tôt, le 16 août, celui-ci a désigné l'amiral d'Argentlieu haut commissaire en Indochine, avec des instructions bien précises. Il n'y est pas question d'indépendance. D'ailleurs, de Gaulle a confié au général Leclerc, nommé commandant en chef en Indochine, le soin d'y ramener l'armée française. Mais elle n'y débarquera qu'en octobre, là où le Viet Minh est le moins fort, en Cochinchine, dans le sud du Vietnam.
Instruction donnée par le général de Gaulle à l'amiral Thierry d'Argentlieu le 16 août 1945. Le haut commissaire de France pour l'Indochine exerce les pouvoirs de gouverneur général de l'Indochine et ceux de commandant en chef des forces terrestres, navales et aériennes basées en Indochine ou désignées pour s'y rendre. Il a pour première mission de rétablir la souveraineté française dans les territoires de l'Union indochinoise.
Indochine.
Ah ouais.
Ah yeah.
Madagascar.
Antilles.
Réunion.
Les actualités d'outre-mer. Un port, Marseille. Un navire, la ville de Strasbourg. Les hommes, ceux de la deuxième DB. Une destination, Indochine. Des villes, d'hommes, de pays, un seul drapeau. Les trois couleurs, une seule devise, liberté.
La sirène retentit. Les cœurs battent. Les braves de Leclerc, accoudés au bastingage, regardent s'éloigner cette terre de France où tant de leurs camarades sont tombés au champ de 16 vers l'Indochine.
Franck Igny, est-ce que vous vous souvenez de l'arrivée du général Leclerc ?
Je me souviens d'une foule énorme, mais je me souviens surtout de l'émotion extraordinaire qu'il y avait. Parce que alors là, c'était le sauveur qui arrivait. Parce que là, on avait l'impression, d'abord, il y avait des troupes qui arrivaient avec lui, mais là, on a dit, bon, c'est fini, les Français qui arrivent, tout va changer. Parce que, vous savez, là-bas, c'est un pays, encore plus qu'ailleurs, où on est capable de repartir comme en 14. Ça, c'est... C'est le pays qui veut ça. Le pays des illusions, vous savez, des mirages et tout. Et alors là, ah oui, mais Leclerc, c'était le sauveur. Le sauveur. On avait l'impression que cette fois-ci, le cauchemar se terminerait, vous voyez. Mais il faut dire aussi une chose. C'est que les premiers Français qui sont arrivés ont déçu les coloniaux. Parce que forcément, ils arrivaient avec les idées gaullistes. C'est des gaullistes qui arrivaient. Ils arrivaient avec des idées gaullistes, des idées libérales.
Tout le monde était dans la rue Catina, à Saïgon.
François Romerio.
Ça a été merveilleux.
Hein? Vous aviez le sentiment que on reprenait pied en Indochine.
Ah oui, 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 oui.
Puis oui. Le soulagement aussi, peut-être.
Le soulagement, la délivrance, n'est-ce pas, hein? Mais dans le fond, je me disais, le verre est dans le fruit maintenant. Ça ne sera plus jamais comme avant.
Nous arrivions là dans une ville qui était libérée. Autrement dit, les civils nous adoraient.
Philippe de Villers.
Nous avions, toutes les jeunes saligonaises cherchaient à sortir avec nous, à nous voir, etc. C'était assez étonnant. Mais il n'empêche que les propos étaient déjà, surtout, vite rétablissaient la domination française, la souveraineté.